C'est l'heure de la vérité. C'est l'heure de la vérité. La vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Préparez-vous. Préparez-vous. Préparez vos cœurs à recevoir la vérité. Préparez-vous à recevoir la vérité chez vous. Préparez-vous. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Bienji. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, où que vous soyez, recevez tous nos sincères et chaleureuses salutations dans le merveilleux et magnifique nom du Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, le Seigneur Jésus-Christ. Vous ne vous êtes pas trompés et vous écoutez votre très chère émission, l'heure de la vérité. Pour vous servir une fois de plus, tout près de moi, notre bien-aimé dans le Seigneur, le frère Yannick. Derrière ce microphone, je suis, je reste, je demeure toujours votre très humble serviteur. Et comme toujours, tout se déroule sous l'œil très très vigilant, très très attentif de son Excellence, Sa Majesté, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, l'admirable conseiller, le Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le Très-Haut qui nous donne encore ces merveilleux privilèges d'honorer ce rendez-vous, cet énième rendez-vous que nous avons avec la vérité biblique. Vous le savez déjà, l'aide de la vérité, c'est cette émission où la vérité biblique uniquement est proclamée. Étant donné que le Christ a dit que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Frère Yannick, une fois de plus, par la grâce de Dieu, tu es là. Que le Seigneur te bénisse abondamment.
Amen, bien-aimé. Je vais profiter pour saluer tous ceux qui sont en train de nous écouter. Et je veux aussi bénir ceux-là qui sont de l'autre côté de Makiné, qui sont en train de m'écouter. Que le Seigneur vous bénisse grandement. Soyez tous connectés à l'heure de la vérité pour recevoir la délivrance du Seigneur. Amen.
Amen. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tes bienfaits qui se renouvellent chaque matin dans nos vies, qui nous accompagnent au quotidien. Merci, parce que si nous sommes encore parmi les vivants, ce n'est pas parce que nous étions les plus forts, les plus robustes, mais c'est ta grâce qui a tout simplement su abonder. Merci infiniment. Merci pour nous, merci pour toutes ces multitudes qui sont à l'écoute, merci pour ce moment, merci pour ce rendez-vous, une fois de plus que tu nous accordes. Seigneur, nous te consacrons toutes choses dans les moindres détails et nous te consacrons toutes ces multitudes. Bénis-les, bénis ce moment, bénis ta sainte parole et laisse qu'en tout et pour tout, ton nom se soit réellement élevé, exalté et glorifié au-dessus de tous les noms. Merci parce que tu le feras. Merci parce que tu prendras le temps contrôle. Merci parce que tout esprit qui se lèvera de quelque manière que ce soit contre la connaissance de la vérité sera tenu assujetti au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Reçois d'avance toute la gloire parce que certainement tu béniras même au-delà de nos prières. Amen. Mesdames et messieurs, comme promis, nous allons continuer à nous intéresser à certaines petites histoires qui nous donnent des grandes leçons pour la vie. Mais avant, nous allons faire un petit résumé des leçons que nous avons tirées de certaines petites histoires. Nous avons écouté la dernière fois un petit résumé pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute, ou bien pour ceux qui étaient à l'écoute mais qui n'avaient pas très bien saisi certaines leçons qui ont été tirées de ces petites histoires. Déjà, nous avons compris, bien entendu, à la lumière des Saintes Écritures, vous êtes encouragés, mesdames et messieurs, à avoir un stylo et sur quoi noter tous les versets bibliques qui sont donnés à partir d'ici, afin de prendre tout votre temps pour pouvoir les vérifier, afin que votre foi soit fondée uniquement sur les Saintes Écritures. Je disais tantôt que, entre autres leçons que nous avons retenues la dernière fois, il y avait le fait que Dieu veut faire des hommes des nouvelles créatures. Oui, Dieu veut que nous naissions de nouveau par son esprit. De nous-mêmes et par nous-mêmes, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu, encore moins nous sauver, encore moins entrer au ciel et au paradis. Mais par la nouvelle naissance, la régénération, le Saint-Esprit de Dieu vient dans nos cœurs, dans nos vies, pour faire de nous des enfants de Dieu, des nouvelles créatures habitées par l'Esprit de Dieu. Et c'est par cet Esprit de Dieu que nous allons désormais vivre au quotidien et pouvoir même pratiquer la parole de Dieu. Et nous avons également vu que il ne suffit pas d'avoir beaucoup d'amis sur la terre. Il faut savoir choisir parmi ces multitudes qui sont réellement nos vrais amis. Parce que ça ne sert à rien d'avoir des multitudes d'amis, si tout, même des milliers d'amis sur Facebook, alors que personne ne peut vraiment vous aider lorsque vous êtes dans de sérieux problèmes. Parce que c'est lorsque vous êtes dans des problèmes que vous allez reconnaître qui sont réellement vos amis. Et nous avons vu que la Bible nous disait clairement que les riches sont parfois ceux-là qui ont beaucoup d'amis. Et c'est normal parce que beaucoup aiment être les amis de ceux qui sont riches, parce que ce qui les intéresse, c'est beaucoup plus leur richesse. Et c'est pour cette raison que nous pouvons voir que les pauvres, en général, n'ont pas tellement d'amis. Et malheureusement, on retrouve aussi cela même dans l'Église, ce qui est tout simplement regrettable. Parfois, beaucoup de serviteurs de Dieu, pasteurs, prêtres et autres, sont constamment chez ceux-là qui sont très riches. Ils connaissent en général les domiciles de tous les fidèles qui sont très riches. Mais malheureusement, les fidèles, les chrétiens qui sont pauvres, ils peuvent même mourir. C'est à peine que le pasteur peut connaître qu'il est en train de mourir parce qu'il ne connaît même pas du tout sa maison. Ce qui n'est pas du tout normal. Nous ne devions pas fonctionner comme le monde. Mais au-delà de tout cela, nous avons vu que le Seigneur Jésus-Christ reste et demeure l'ami fidèle et tendre. Amen. Tout le monde peut vous décevoir. Même vos amis intimes peuvent vous décevoir. Mais il est clairement écrit que le Christ, lui, ne déçoit jamais. Lui, il ne déçoit jamais. Donc, au-delà de tous les amis que vous avez sur la terre, personnellement, je vous encourage à avoir le Christ comme votre ami fidèle, le plus intime même, qu'il soit en tête de liste parmi vos amis. Et vous-même, vous allez confesser que dans toutes les situations, même les plus compliquées, les plus complexes, où vous êtes abandonné à vous-même, le Christ sera à vos côtés pour vous aider, pour vous fortifier.
Amen.
Lui-même, il a dit à ses disciples, « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est merveilleux pour le chrétien de savoir que le Christ est avec lui partout, dans toutes les situations, jusqu'à la fin du monde. Nous avons aussi vu que parfois, lorsque les choses ne marchent pas, il faut changer de stratégie. Oui, parfois, lorsque les choses ne marchent pas, la Bible nous a conseillé de réfléchir. Parce qu'en réfléchissant correctement, il y a certainement une meilleure solution ou une vraie solution. Il n'y a aucun problème sur la terre sans solution. Vous deviez vraiment le savoir. Dans tous les problèmes, Dieu a prévu au moins une porte de sortie. Il faut tout simplement bien réfléchir. Et nous avons également vu que Dieu voudrait que nous soyons ceux-là qui sont malléables entre ses mains, des gens capables de changer lorsque c'est nécessaire. Parce qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. vous pouvez adopter certaines traditions, certaines coutumes, et à un moment donné, vous pouvez vous rendre compte que ce n'est pas bon du tout. Et Dieu voudrait que vous puissiez vraiment changer le plus tôt possible, et non dire, ce sont les traditions de nos ancêtres, il n'y a rien à changer là-dessus, nous allons mourir dedans. Ce n'est pas de cette façon que Dieu voudrait que nous puissions nous comporter devant certaines situations. Nous avons également vu que tout ce qui brille n'est pas or. Oui, tout ce qui brille n'est pas or. Donc, vous devez faire attention, vous devez avoir un discernement très très poussé, surtout dans ce monde corrompu, ce monde pervers et corrompu, où le diable fait miroiter beaucoup de choses au monde, alors qu'il y a la face cachée, il y a le revers de la médaille. Et déjà la dernière fois, je vous disais, il y a beaucoup de choses qui semblent inoffensives, alors qu'en réalité, derrière cela, il y a un poison mortel. Et je prenais les exemples palpables concernant l'Internet et tout ce que nous voyons à la télé, beaucoup de séries télévisées qu'on peut considérer comme parlant de l'amour, alors qu'en réalité, le fond du problème, c'est le sexe. Et je disais que nous ne devions pas confondre le sexe et l'amour. Oui, beaucoup de gens visionnent des films dits érotiques, alors qu'en fait, ce ne sont que des films pornographiques. Et voilà, petit à petit, les gens se laissent empoisonner leur esprit, leur âme, en visionnant certains films qui apparemment avaient l'air inoffensifs. C'est pour cette raison que nous ne devons pas être du tout surpris de voir que notre monde va à l'envers. Oui, des jeunes filles, parfois très jeunes même, pratiquent et font des choses à peine inimaginables parce qu'ils ont copié tout cela à la télé ou sur Internet. Aujourd'hui, parfois on se plaint en voyant la violence, en voyant la magie, la sorcellerie, mais on ignore que c'est la télé qui nous sert cela 24 heures sur 24. Oui, parfois même des chaînes, ça c'est un avertissement que je donne aux parents, parfois des chaînes dites pour enfants, c'est curieux de voir que sur ces chaînes, beaucoup de films qui tournent tout autour du sexe, autour de la violence, de la guerre, surtout autour de la sorcellerie, sont vraiment projetés 24 heures sur 24. Je suis tellement surpris de voir ces choses sur des chaînes dites pour enfants. Vous deviez vraiment être sous vos gardes, très chers parents. Si vous ne prenez pas le temps d'éduquer vos enfants, la télé le fera, mais de façon négative. Un jour, vous allez être surpris de voir que les enfants que vous avez mis au monde sont devenus des pervers sexuels, des violents, et même des sorciers, parce qu'ils ont été initiés à la télé, sans que vous le sachiez. Donc, c'est pour nous encourager tous à la vigilance. À la vigilance. Nous sommes à la fin des temps. D'ailleurs, en passant, je voudrais poser une petite question. Je ne sais pas pourquoi. De nos programmes, on a enlevé la morale à l'école. À notre époque, il y avait la morale. Je ne sais pas pourquoi, sur quelle base on a supprimé la morale à l'école. Et ce qui est curieux, c'est que lorsqu'on supprime une matière comme celle-là, la morale, c'est pour enseigner à nos enfants les condoms, beaucoup de choses qui sont des futilités, et on laisse de côté ce qui est même vraiment essentiel. Apparemment, tout cela semble inoffensif, mais à y voir de très près, il y a danger, il y a le poison. Vraiment, soyons vigilants, mesdames et messieurs, soyez vigilants, très chers parents. Nous avons également vu que Dieu nous exauce lorsque nous crions vraiment de tous nos cœurs. Il nous écoute et il nous exauce, mais seulement il n'exauce pas nos prières comme nous le souhaitons ou bien comme nous l'avons planifié. Lui, il a ses plans qui sont les meilleurs. Lorsque vous avez prié avec foi, faites tout simplement confiance au Seigneur. En son temps, il agira et vous-même vous témoignerez que Dieu est plus sage que nous. Et il écoute vraiment et il exauce, mais Amen. Pas comme nous l'avons planifié. Nous avons aussi vu que le Christ reviendra. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de sectes et beaucoup de systèmes religieux qui ont prédit des dates précises concernant le prochain retour du Seigneur Jésus, entre autres les témoins de Jéhovah qui ont beaucoup annoncé le prochain retour du Seigneur Jésus-Christ en donnant des dates précises, ce qui n'était qu'une aventure malheureuse puisque le Christ a dit, personne ne sait ni l'heure ni le jour. Les hommes doivent être tout simplement prêts. Il reviendra à l'heure que personne ne s'y attend. C'est ce que le Christ lui-même a dit. Donc, le Christ reviendra vraiment, et comme un voleur. Et c'est à nous d'être prêts, afin de ne pas être dans la honte et la confusion lorsqu'il apparaîtra. Voilà, en bref, mesdames et messieurs, les leçons que nous avons pu tirer des quelques petites histoires, nous avons écouté la dernière fois. Et nous allons tout simplement continuer. Cette histoire, c'est l'histoire d'une famille africaine, même Bamileke, qui décidait de chercher un crâne. Parce que selon les dits des marabouts, des féticheurs, ces crânes étaient en train de nuire la famille. Parce qu'on l'avait abandonné en brousse, on n'avait pas pris soin de lui. Et c'est ainsi que les malheurs frappaient dans la famille, tout simplement parce qu'on avait négligé ce crâne dans la forêt. Et voilà, la famille va se mobiliser, bien entendu, avec un marabout, et ils vont décider d'aller en forêt chercher ce crâne afin de l'apaiser et que la famille puisse être vraiment en paix. Et réellement, ils vont partir dans la forêt avec l'aide des marabouts et avec ces gris-gris, le marabout va réussir à trouver ce crâne qui, selon ses dits, était en train de causer du tort à la famille parce qu'on l'avait abandonné, on l'avait négligé. Et ils vont retourner à la maison avec ce crâne. Et voilà qu'ils vont déposer ce crâne juste à l'entrée de la porte. Et curieusement, à un moment donné, on va chercher ce crâne sans trouver. En fait, un chien est passé par là et il a porté ce crâne. On l'a vu s'enfuir avec ce crâne. Et ces mamans qui racontaient cette histoire se sont posées certaines questions. Comment se fait-il que nous nous sommes tant battus en temps et financièrement pour pouvoir récupérer ce crâne? Mais même après l'avoir récupéré, il n'a pas pu se défendre même contre un petit chien. Est-ce que cette affaire est vraiment sérieuse? Oui, un crâne qui est fâché en forêt parce qu'on l'a abandonné, on met tout en œuvre pour le récupérer et le mettre à l'abri à la maison, mais malheureusement, voilà qu'il n'a pas pu se défendre contre un chien qui l'a emporté. Mesdames et messieurs, en réalité, lorsque les féticheurs et les marabouts disent que les crânes réclament des choses, ce sont du n'importe quoi. Dans Hébreux 9, le verset 27, il est clairement écrit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Oui, Hébreux 9, verset 27 nous dit, il est réservé à un homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, enlevez de vos crânes, de vos têtes, que la personne qui est morte peut réclamer encore les choses aux vivants. Ce n'est pas possible. Lorsque quelqu'un meurt, il est face au jugement de Dieu pour rendre compte de la manière dont il a vécu sur cette terre. Et il faudrait vraiment que les gens le sachent. Que les féticheurs, les marabouts ne vous escroquent pas, ne vous dépouillent pas financièrement et matériellement en disant que l'un de vos ancêtres qui est mort est fâché et il réclame des choses. Et ce qui est tout de même curieux, c'est qu'en général, lorsqu'on demande des choses, c'est toujours pour apaiser ses crânes. Laissez-moi vous dire que le Seigneur Jésus-Christ, que nous sommes en train de proclamer, n'a pas besoin que vous puissiez l'apaiser. Vous deviez l'accepter, le suivre et le servir par amour. Pas parce que vous avez besoin de faire quelque chose pour l'apaiser. Il n'y a que les dieux méchants qu'il faut chaque fois faire des sacrifices pour pouvoir les apaiser. Alléluia.
Amen.
Dans Deutéronome, chapitre 18, à partir du verset 10 au verset 12. Qu'est-ce qui est écrit là, frère Yannick, Deutéronome chapitre 18, à partir du verset 10 au verset 12?
Il est écrit: qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de cette abomination que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Parole du Seigneur.
Amen. Ici, la parole du Seigneur est claire et formelle. Qu'on ne trouve chez toi personne qui interroge les morts. Donc Dieu a formellement interdit que l'on interroge les morts. Parce qu'en réalité, les morts, lorsqu'ils sont morts, ils n'ont plus rien à faire avec les vivants. Tous les esprits qui vont agir au nom de ces morts ne sont que des esprits maléfiques. Et ceux qui font souvent des sacrifices au crâne doivent normalement remarquer certaines choses. Un exemple, lorsque vous jetez par exemple la viande ou un coq sur un crâne, après un certain temps, vous allez passer et remarquer tout simplement que cette viande a tout simplement pourri, ou bien que les fourmis sont en train de la dévorer petit à petit. Donc, cette personne, ou bien ce crâne, n'a pas du tout mangé cette viande. Donc, abandonnez toutes ces manipulations du diable, mesdames et messieurs, vous qui êtes encore tenus captifs d'une manière ou de l'autre par ces choses. Nous sommes là pour éclairer les gens. Rappelez-vous, vous écoutez l'heure de la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Moi particulièrement, lorsque j'avais abandonné ces choses pour suivre le Christ, on m'avait dit que ça ne marchera pas. Lorsque les coutumes vont m'attraper, je vais courir tout droit au village. Mais j'attends toujours que les coutumes m'attrapent. Mais ça ne peut pas tout marcher puisque le Christ qui est dans le chrétien est plus fort que toutes les manipulations du monde des ténèbres.
Amen.
Vous deviez le savoir. C'est parce que vous pratiquez ces choses et que vous avez des liens avec ces choses que ça marche avec vous. Lorsque ces liens sont brisés, au nom du Seigneur Jésus-Christ, parce que vous êtes en Christ, Satan avec ses agents vont beau pratiquer, ça ne marchera plus du tout pour vous. Dans Ecclésiaste chapitre 9, les versets 5 et 6, qu'est-ce qui est écrit là, frère Yannick?
Il est écrit: les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée, et leur amour, leur haine et leur envie ont déjà péri, et il n'aura plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Parole du Seigneur.
Alléluia. La Bible est claire. Les morts n'ont plus part avec tout ce qui se fait sous le soleil. Ils sont morts avec leur amour, leur envie, leur haine. Donc les morts ne peuvent plus vous aimer, mesdames et messieurs, ni vous haïr. Ils sont morts avec tout cela. Lorsque quelqu'un est vivant, il peut décider de vous aimer, de vous haïr. Mais après sa mort, la Bible dit qu'il ne peut plus du tout le faire. Et vous deviez le savoir. Donc ne laissez plus que les charlatans, les marabouts viennent vous tromper. Nous allons également lire dans 2 Corinthiens chapitre 11, 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 14. Vous pouvez relever ce verset après prendre tout votre temps de les vérifier.
Il est écrit: et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Parole du Seigneur.
Alléluia. La Bible nous dit que ce n'est pas du tout étonnant. Le diable est capable de se déguiser en ange de lumière. Donc vous deviez savoir que Satan est capable de prendre l'image de cette personne qui est morte il y a longtemps et de venir vous troubler dans vos sommeils, dans vos rêves. Ainsi, vous allez commencer à croire que la personne qui est morte est réellement revenue pour vous parler. La Bible nous dit que c'est le diable qui se déguise en ange de lumière. Donc le diable est capable de prendre même la forme d'un ange de lumière. Et il faut le discernement et la connaissance de la parole de Dieu pour savoir que dans cette affaire-là, il y a quelque chose de louche, quelque chose qui ne tourne pas rond, parce que ce n'est pas conforme aux saintes écritures. Donc chaque fois lorsque vous avez des rêves concernant des personnes qui sont mortes, surtout qui viennent pour vous dire des choses, vous deviez repousser cela au nom du Seigneur Jésus. Et si ça ne marche pas, cherchez à entrer en contact avec un vrai serviteur de Dieu. Après avoir prié, cet esprit va vous libérer et va s'enfuir. Parce que la Bible nous dit, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Que la personne qui a des oreilles pour entendre, entende. Nous sommes en train de nous intéresser à certaines petites histoires qui nous donnent des grandes leçons pour la vie. Cette autre histoire, c'est l'histoire d'un élève qui a eu son diplôme. Et il était si content, si enthousiaste, et il a voulu célébrer sa réussite comme certains joueurs que nous voyons souvent. Lorsqu'il marque un but, il saute et tourne en l'air, parfois même plusieurs tours avant d'atterrir au sol. Voilà, cet élève qui était si content d'avoir réussi son examen va sauter pour essayer de tourner. Malheureusement, il va atterrir par la tête et il va mourir. Voilà un sujet de joie qui subitement se transforme en un sujet de tristesse. La famille qui était si contente, les amis, les proches, se retrouvent subitement en deuil. Parce que l'élève n'a pas su célébrer sa réussite. Il arrive le plus souvent autour de nous que beaucoup de sujets de joie deviennent des sujets de tristesse. Je vais prendre quelques exemples. Se marier, c'est une très bonne chose. La plupart des temps, ou bien dans le plan de Dieu, le mariage, c'est un sujet de joie. D'ailleurs, la Bible nous dit dans Hébreux 13 que le mariage soit honoré de tous. Mais malheureusement, le mariage peut aussi devenir un sujet de cauchemar, de tristesse, d'amertume et même de suicide. Si par exemple vous vous trompez sur le choix de votre conjoint, au lieu que votre mariage devienne un sujet de joie, ça risque d'être plutôt l'enfer. Donc vous deviez réfléchir, tout ce qui peut être un sujet de joie peut se transformer en cauchemar.
Amen.
Et nous devions vraiment le savoir. Parfois, la venue au monde d'un enfant, c'est toujours un sujet de joie, mais parfois c'est aussi un sujet de cauchemar, de tristesse même. Par exemple, lorsqu'on envoie une petite fille pour fréquenter et qu'elle revient avec un gros ventre, c'est vrai qu'elle est enceinte, c'est l'enfant qui est dans ce ventre, mais on ne peut pas dire que les gens sont vraiment contents parce que ce n'était pas le moment d'être enceinte. On l'a envoyée à l'école pour étudier et non pour revenir avec une grossesse. Lorsque par exemple une jeune fille accouche sans savoir qui est le père, c'est un sujet de cauchemar et de tristesse. L'enfant, c'est beau, mais ça peut se transformer en cauchemar. Lorsque les gens veulent avoir les enfants, alors qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens pour entretenir ces enfants, lorsque ces enfants vont venir au monde, au lieu que ça devienne un sujet de joie, ça peut devenir un sujet de tristesse, d'amertume et de cauchemar. Voilà autant d'exemples qui montrent que beaucoup de choses peuvent se transformer en cauchemars qui, au départ, sont censées être des choses qui réjouissent le cœur, qui produisent la joie. Et j'irai même plus loin. Lorsque certaines personnes célèbrent les baptêmes et que c'est ce même jour de baptême que beaucoup de jeunes filles sont déviégées, c'est triste. Ce qui est censé être un sujet de joie devient un sujet de tristesse. Parce que ce n'est pas normal que l'on organise un bal, soi-disant pour célébrer le baptême, et que l'alcool coule à flot, qu'il y ait des musiques profanes qui vont favoriser la prostitution, la promiscuité, le péché en fait. Beaucoup de gens qui sont venus au baptême se retrouvent en train de pécher alors qu'ils sont venus pour glorifier Dieu. Ce qui était censé être un sujet d'action de grâce, de louange et même d'adoration se transforme en autre chose. Ce n'est pas du tout normal. Ce n'est pas vraiment normal. Nous voyons qu'il y a tellement d'exemples, des sujets de joie qui peuvent se transformer en sujets de tristesse. Parce que lorsque Dieu regarde certaines choses qui sont censées lui donner la joie, parfois, il est triste. Lorsque Dieu regarde, par exemple, dans un temple où on est censé adorer Dieu, rempli de statues, de bougies, Dieu se demande, mais est-ce que c'est un temple de maroboutisme ou d'idolâtrie? C'est un sujet de tristesse, un temple qui est censé être le temple de Dieu. Ça devient un sujet de tristesse pour Dieu. Parce que les gens sont en train de se prosterner devant des statues, des idoles. C'est tout simplement regrettable. Et, mesdames et messieurs, nous devions savoir que Dieu est un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu jaloux. Dieu ne veut pas partager sa gloire avec les idoles et avec un homme. Par exemple, dans 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 2, Frère Yannick, si tu es à la page, tu vas lire pour nous tous.
Il est écrit, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure.
Par le Seigneur.
Alléluia. La Bible nous dit ici que les chrétiens sont censés être une vierge pure. Et l'apôtre Paul dit ici qu'il est jaloux. Donc le chrétien ne doit pas se prostituer n'importe comment. Le chrétien ne doit plus vivre n'importe comment. Parce qu'il est aux yeux de Dieu comme une vierge pure qui attend le retour de son époux qui est le Christ. C'est pour interpeller l'Église du Seigneur Jésus à se préserver des souillures du monde et toutes sortes de péchés. Et parmi les 10 commandements de Dieu, dans Exode 20, voici ce que Dieu va dire dans Exode 20, verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la mer. Verset 5, tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alléluia. C'est dans les 10 commandements de Dieu que nous voyons que Dieu est un Dieu jaloux. Et nous devions également le savoir. Et nous devions également savoir célébrer nos réussites. Ce n'est pas obligé, mesdames et messieurs, que lorsque vous avez une réussite, une promotion, que vous puissiez organiser la fête de telle sorte que les gens puissent s'enivrer et commettre toutes sortes de choses pour montrer que vous êtes en train de célébrer votre réussite, votre succès. Pas du tout. Vous deviez savoir que si il y a eu succès ou réussite, quelque part, c'est parce que Dieu était avec vous. Vous deviez tenir compte de cela en étant modeste, sobre dans la manière de célébrer cette réussite. C'est très, très important. Même aux élèves qui ont réussi les examens, sachez que la main de Dieu était avec vous. Donc, soyez tout simplement reconnaissants et célébrez avec sobriété. Ne péchez pas en célébrant votre succès et votre réussite, en déshonorant Dieu qui vous a accordé la grâce d'avoir du succès. Frère Yannick, que nous allons lire dans Isaïe 42, le verset 8. C'est juste pour confirmer tout ce qui a été déjà dit.
Isaïe 42, verset 8, il est écrit, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un homme, ni mon honneur à une idole, parole du Seigneur. »
Alléluia. Pour ceux-là qui ont des idoles dans leur vie, dans leur maison, sachez que Dieu dit qu'il ne donnera pas sa gloire à un homme ni à une idole. Donc, vous deviez vous débarrasser de tous ces idoles, que ce soit en statue, d'or, pierre, argent, bois et autres. D'ailleurs, c'est ce que nous allons voir dans Apocalypse chapitre 9, le verset 20.
Il est écrit,
Apocalypse chapitre 9, verset 20.
Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre, de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Parole du Seigneur.
Amen. Nous sommes en train de nous intéresser à certaines petites histoires qui nous donnent des grandes leçons pour la vie. Cette autre histoire, c'est l'histoire de quelqu'un qui a faim et qui a soif. Mais, curieusement, quelqu'un s'approche en lui montrant des photos où il y a des bons plats de nourriture dessus et une bouteille d'eau bien glacée dessus. Parce qu'il avait faim et qu'il avait soif. En réalité, qu'est-ce qu'une photo de nourriture, de plats, de riz peut bien faire à quelqu'un qui a faim? Qu'est-ce qu'une bouteille d'eau bien glacée sur une photo peut bien faire à quelqu'un qui a soif et qui veut étancher sa soif? Malheureusement, parfois, c'est ce qui nous arrive. Parfois, nous confondons la réalité et l'ombre. La photo ici n'est que de l'ombre et n'a rien à voir avec la réalité. Lorsque quelqu'un a faim, il a besoin d'un bon plat de nourriture et non d'une photo d'un plat de nourriture. Et malheureusement, de nos jours, beaucoup, parfois vont même en Israël, là où Jésus a été crucifié, et ils vont même là où on dit qu'on l'avait mis. Malheureusement, ces personnes rentrent toujours étant des pécheresses. Malgré les expériences qu'ils ont faites en Israël, en allant là où Jésus avait été crucifié, en entrant là où on l'avait mis, beaucoup marchent avec des crucifixes, beaucoup marchent même avec des croix, mais malheureusement, ces crucifixes, ces croix, beaucoup ont même des photos de Jésus dans leurs maisons, dans leurs voitures. Malheureusement, toutes ces choses ne les changent pas, parce que ces choses n'ont rien à voir avec la réalité, mesdames et messieurs. Laissez ces choses de côté, allez directement à Christ qui est la réalité. Laissez la photo de Jésus, allez directement à Jésus. La photo de Jésus ne peut pas vous sauver. La croix de Jésus ne peut pas vous sauver. Allez directement à Jésus. Laissez les photos de côté, laissez l'ombre de côté et passez à la réalité. Et si les hommes comprennent qu'à un moment donné, la foi n'a rien à voir avec les objets, je suis sûr qu'ils vont faire des expériences qui vont vraiment en être une avec le Christ. Parce que malheureusement, parfois dans notre monde, on donne plutôt des photos aux gens et non la réalité. Si vous voulez vous réchauffer, si on vous donne une photo de feu, vous allez mourir de froid. Il faut aller là où il y a un vrai feu pour pouvoir vous réchauffer.
Amen.
Nous allons lire dans Colossiens chapitre 2, les versets 16 et 17.
Il est écrit, que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'homme des choses à venir, mais le corps est en Christ. Amen.
Amen. Le corps où la réalité est en Christ. La Bible va jusqu'à nous dire que dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, il y avait beaucoup de choses concernant les fêtes religieuses, même le sabbat. C'était l'ombre des choses à venir. Désormais, la réalité est en Christ. Donc, le chrétien ou l'homme n'a plus besoin de s'attacher à certaines choses matérielles comme dans l'ancienne alliance. Il faut passer directement à la réalité qui est en Christ. Et Ésaïe 55, les trois premiers versets, va nous dire quoi, frère Yannick? Ésaïe 55, les trois premiers versets.
Il est écrit, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mes mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Parole du Seigneur.
Alléluia. Mesdames et messieurs, c'est pour vous encourager à aller directement à la source. Cette source d'eau vive n'est autre que le Christ. Ne vous arrêtez pas en chemin. Parce que je sais que beaucoup s'arrêtent en chemin. Ce chemin peut être une religion, même un homme, une personne. Beaucoup sont prêts à dépenser d'énormes sommes pour des choses qui, en réalité, ne les aideront jamais à aller vraiment à la rencontre du Seigneur. Beaucoup sont prêts à débourser des sommes faramineuses pour des croix, des crucifixes, des photos, d'images, toutes sortes de reliques religieuses. D'ailleurs, la première religion chrétienne sur cette terre s'est tellement enrichi en vendant des reliques, soi-disant des reliques des apôtres. Parce qu'ils avaient compris que l'homme aime s'attacher aux objets. Lorsqu'on disait que ça, c'était un mouchoir que l'apôtre Pierre avait utilisé, les hommes étaient prêts à dépenser toutes leurs fortunes pour s'en procurer. Lorsqu'on disait que ça, c'était l'ongle de Pierre, les gens couraient parce qu'ils croyaient que en entrant en contact avec un objet que les apôtres ont utilisé, ils devaient aussi entrer en contact avec Dieu et la puissance de Dieu. Non, laissez toutes ces choses de côté. Venez directement au Seigneur Jésus. Amen. Et vous allez expérimenter sa vraie puissance. Mesdames et messieurs, que la personne qui a vraiment des oreilles pour entendre, entende. Nous sommes en train de nous intéresser à certaines petites histoires qui nous donnent des grandes leçons pour la vie. Cette autre histoire, c'est l'histoire de cet homme qui entre précipitamment dans le bureau d'un pasteur en lui disant, je viens de perdre mon cheval et ma vache et tout cela représente toute ma fortune. Et je ne sais pas ce que je dois devenir, surtout avec ma femme qui est gravement malade et qui ne consomme que du lait. Et voilà, le pasteur va compatir et il va sortir un peu d'argent de sa poche pour donner à ce vieillard. Ce vieillard va dire, c'est bien beau de me donner un peu de l'argent, mais je n'ai pas toujours la vache. Et après un long silence, le pasteur va lui dire, il ne nous reste qu'une seule chose à faire, prier Dieu. Et le vieillard va dire, je ne crois tout de même pas qu'en priant, Dieu laissera tomber une vache du ciel. L'homme de Dieu va lui dire, je crois que de la même manière que Dieu a nourri son peuple dans le désert, je crois que Dieu peut encore faire des grandes choses jusqu'à ce jour. Prions tout simplement. L'homme va refuser carrément de s'associer à lui pour prier, mais après beaucoup d'insistance, ce vieillard va finir par s'associer à l'homme de Dieu pour prier pour son problème. Et voilà, pendant qu'ils vont se mettre à prier, la femme de l'homme de Dieu va entrer précipitamment, avec une enveloppe en main. Et dans cette enveloppe, il y aura une forte somme d'argent, un mot, mais anonyme. Et ce mot disait tout simplement, pour un besoin précis. Pour un besoin précis. Et c'était tout. Et l'homme de Dieu va répondre à ce vieillard, voici votre vache qui vient d'arriver. Vous comprenez qu'avec cet argent qui était dans cette enveloppe, l'homme de Dieu va acheter une vache pour donner à ce vieillard. Mesdames et messieurs, vous deviez vraiment le savoir, rien n'est impossible à Dieu. Vous deviez lui faire confiance dans toutes les situations. La Bible nous l'encourage d'ailleurs. La Bible nous dit vraiment que rien n'est impossible à Dieu. Nous allons lire cela dans le psaume 50, le verset 15. Et Luc, chapitre 1er, le verset 37. Frère Yannick, si tu es dans le psaume 50, verset 15, tu peux lire.
Psaume 50, verset 15. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Parole du Seigneur.
Alléluia. Si vous êtes dans la détresse, le Seigneur vous encourage à l'invoquer tout simplement. Et Dieu se chargera de vous délivrer. Et Dieu dit, lorsqu'il va vous délivrer, vous allez le glorifier. Donc Dieu se plaît à délivrer les hommes afin qu'ils puissent le glorifier. Et Luc chapitre 1, le verset 37 va dire quoi?
Il est écrit, car rien n'est impossible à Dieu.
Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Donc dans votre situation, peu importe cette situation, si vous faites confiance au Seigneur, vous verrez que rien ne lui est impossible.
Amen.
Et cette histoire, compte tenu du temps, qui sera peut-être la dernière de ce jour, c'est l'histoire d'un touriste qui s'est retrouvé en Israël. Et il a été attiré par une scène. En fait, il a vu un troupeau en train de s'abreuver à une fontaine. Et ce qui a attiré son attention, c'est que ce troupeau appartenait à trois bergers. Et chacun des bergers avait ses brebis dans ce troupeau. Et il va poser cette question. Je ne vois qu'un seul troupeau. Et pourtant, chaque berger a ses brebis. Comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir distinguer vos brebis? Et voilà que le premier berger va se lever et il va dire en sa langue, « Suis-moi !» Et tout à coup, une trentaine de brebis va se détacher du lot et commencer à le suivre. Et l'autre berger va également dire la même chose. Et voilà qu'une bonne partie des brebis va également se détacher et commencer à le suivre. Et ce touriste va dire au troisième berger, si je prononce les mêmes mots, est-ce que le reste des brebis va me suivre? Le berger va le dire, pas du tout. Et il va décider de passer à l'acte. Il va prendre l'accoutrement de ce berger. Il va même prendre son bâton. Il va vraiment s'habiller comme ce berger. Et il va se tenir devant ce troupeau. Et il va dire, suis-moi, comme les autres l'ont fait. Les brebis, bon, soulevaient leur tête. Mais aucune brebis ne doit le suivre. Et c'est alors qu'il sera tellement étonné de voir que les brebis sont capables de discerner la voix de leur maître. Mesdames et messieurs, nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de faux bergers. Nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de gourous qui viennent et qui attirent les gens à eux pour les détruire. Mais vous deviez savoir que Jésus-Christ reste et demeure le bon berger. Le Christ est le bon berger dans ce monde. D'ailleurs, ces déclarations sont formelles. Nous sommes dans l'évangile de Jean chapitre 10. à partir du verset 7 au verset 11. Frère Yannick, tu peux lire cela pour nous tous. Écoutez très bien ce que le Seigneur Jésus-Christ va dire dans l'évangile de Jean, chapitre 10, à partir du verset 7 au verset 11.
Il est écrit, Jésus leur dit encore, « en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que des brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, parole du Seigneur.
Alléluia. Le Christ est le bon berger. Donc, dans ce monde, si vous ne voulez pas courir le risque de vous laisser attirer par des gourous et par toutes sortes de bergers qui ont pris la forme des bergers alors qu'à l'intérieur, ils ne sont que des loups ravisseurs, vous deviez, pendant qu'il est encore temps, suivre Jésus qui est le bon berger. Et en général, il n'y a qu'une brebis malade qui peut suivre un autre berger que son réel berger. Donc vous deviez le savoir. Lorsque les gens ne veulent pas suivre le bon berger qui est le Christ et qui sont tout de même prêts à suivre toutes sortes de bergers, de gourous et toutes sortes de chemins que le monde les propose, c'est un mauvais signe. On est malade quelque part, mais il n'est jamais trop tard pour se ressaisir, pour se racheter. Donc à partir de ce jour, mesdames et messieurs, c'est pour vous encourager. Si vous n'avez pas encore suivi Jésus qui est le bon berger, faites-le. Faites-le. Et Jésus va continuer toujours dans cet évangile de Jean chapitre 10, verset 16. Il va dire quoi, frère Yannick? Et puis le verset 27.
J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger.
Alléluia. Le Seigneur Jésus dit qu'il y a beaucoup qui ne sont pas encore dans sa bergerie. Donc, le Seigneur vous tend sa main en ce jour. Si vous n'êtes pas encore dans la bergerie du Seigneur, il est temps pour vous. Le Seigneur lui-même sait que vous n'étiez pas encore dans sa bergerie, mais il dit il faut que vous veniez. Parce qu'il faut qu'il y ait un seul berger, le Christ, et un seul troupeau, le corps de Christ. C'est pour vous encourager. N'hésitez plus. Le Christ lui-même vous veut dans sa bergerie.
Amen.
Et le verset 27 va dire quoi?
Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent, parole du Seigneur.
Alléluia. Si vous êtes une brebis du Seigneur, vous allez entendre sa voix et vous allez tout simplement le suivre. Mesdames et messieurs, très chers auditeurs, nous aurions bien aimé continuer à nous intéresser à certaines petites histoires. Compte tenu du temps, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Frère Yannick, qu'est-ce que tu peux dire à notre chère société, surtout par rapport à toutes ces petites histoires que nous avons écoutées?
Je vais seulement les encourager. Ce sont vraiment les petites histoires, mais qui nous enseignent des grandes leçons. Et les leçons de la vie. Nous voyons, il y a tant de ces petites histoires qui nous ont enseigné des grandes leçons. Et tout ça concourt pour la vie éternelle. Donc, ce n'est pas pour une vie passagère comme nous voyons tout ce que le monde peut nous donner. Ce ne sont que des choses qui vont nous donner la vie pour un temps. Mais tout ceci là, toutes ces petites histoires, si nous sommes en train d'écouter, nous donnent vraiment la vie éternelle. Et je nous encourage vraiment d'être toujours connectés et de mettre ce que nous avons écouté en pratique pour vraiment recevoir cette vie éternelle que le Seigneur Jésus-Christ donne. Car ce n'est que lui seul qui donne. Il n'y a pas deux qui donnent en dehors de lui. Soyez bénis dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ, maintenant pour toujours. Amen.
Amen. Nous avons été assistés par le Saint-Esprit. Que la gloire, les honneurs, les actions de grâce, l'adoration, l'élévation, les acclamations reviennent uniquement à celui-là seul qui est digne de les recevoir, non seulement ici-bas, même dans les cieux, pour des siècles et des siècles, le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur surabonde dans vos vies, où que vous soyez, et surtout, gardez la foi. Car rien n'est impossible à celui qui a la foi. Amen. Amen. Amen.
Amen. Amen.
N'oubliez pas que vous pouvez aussi lire, écouter, visionner et télécharger gratuitement mes différents messages sur mon site internet www.pasteurrodrigue.com. Pasteur Rodrigue, c'est en un seul mot, pasteurrodrigue.com. Si vous avez des questions ou des préoccupations quelconques, sentez-vous libre de m'appeler au 77 61 93 77, ou aussi au 96 36 25 40, 77 61 93 77, ou aussi au 96 36 25 40. Et vous pouvez précéder ces deux numéros de 00 237, qui est le code du Cameroun si vous m'appelez hors du Cameroun. Vous pouvez aussi m'écrire à l'adresse électronique rodrigue.genji@yahoo.fr. Genji s'écrit NJENDJI. rodrigue.genji@yahoo.fr. C'était l'heure de la vérité, l'heure de la vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 8, le verset 32. Vous tous qui aimez la vérité, et surtout la vérité biblique, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Genji. Alléluia, gloire à Dieu, amen. Ne l'oubliez jamais, ne l'oubliez jamais. Le vrai bonheur, c'est dans la sainte parole du Seigneur Jésus-Christ. Le vrai bonheur, c'est avec le Seigneur Jésus-Christ et nulle part ailleurs.
Tu m'as donné le goût de vivre, la force de continuer. Je sais que maintenant je suis libre, je veux le raconter. Je sais que sans toi je suis vide, rien ne peut me combler. Ces illusions de mon dérive, je veux m'en détourner, sachant que tu es là. Je m'appuie sur tes promesses jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre. De ma vie, mon rêve c'est te servir. De ta main on peut me ravir. En toi je suis bâti. Les mots me manquent pour tout te dire. Je t'aime tellement. Une prière ne peut décrire la gloire de Dieu si grand. Mais je sais que tu es là. Je m'appuie sur tes promesses jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout.